Après, à propos de prier encore une fois, également. Seigneur Dieu, nous voulons te remercier pour ta parole par laquelle tu te révèles plus à nous chaque jour. Seigneur, nous te prions que tu nous donnes, s'il te plaît, de t'écouter humblement ce matin. Nous te prions que tu nous donnes de réaliser de plus en plus qui tu es, et qui est Jésus ton Fils, et tout ce que tu nous offres en lui. En son nom. Amen. Alors, je prends le passage moi aussi, dans Jean 8, de la page 694. Le passage de ce matin, c'est Jean 8, verset 12, à partir du verset 12 jusqu'au verset 30. Et avant que nous lisions ces versets, je réalise que certains risquent de se demander pourquoi on ne considère pas, pourquoi on ne va pas lire et parler du verset 53 du chapitre 7 jusqu'au verset 11 du chapitre 8. Et en fait, c'est avant tout par souci de fidélité à la parole de Dieu. Alors, il faut savoir que les Bibles que nous utilisons, les Bibles blanches ici, elles indiquent tout ou presque tout ce que beaucoup d'anciennes Bibles, d'anciens manuscrits indiquent. Donc c'est ce qu'on trouve entre crochets, et notamment ces versets 53 du chapitre 7 jusqu'au verset 10 du chapitre 8. Alors, donc, certaines vieilles Bibles, certains vieux vieilles versions de l'évangile de Jean ont ces versets, et certains manuscrits ne les ont pas. Alors, il faut savoir que ceci n'arrive que très, très, très rarement. Ce que je sache, pour un passage aussi long, ça n'arrive qu'une seule fois à un autre endroit, à la fin de Marc. Et donc, il n'y a pas de quoi être perturbé. Et en fait, la question ici est de savoir si ces versets ont été ajoutés ou s'ils étaient là dans la version originale de Jean. Et en gros, la réponse semble être la suivante. Alors, même si ce pourrait bien, fort bien, que ce que ces versets décrivent se soit réellement passé, il est peu probable que Jean l'ait écrit dans la version originale de l'évangile, de son évangile. Et ceci pour plusieurs raisons. Je vais vite les énumérer. Premièrement, parce que la très grande majorité des manuscrits, des versions de cet évangile les plus anciens, n'ont pas ces versets. Alors, deuxièmement, aucun des premiers pères de l'Église, c'est-à-dire des gens qui ont écrit des commentaires sur les livres de la Bible dans les premiers siècles, aucun ne mentionne ces versets non plus, à part un seul qui était plus tardif, qui était au IVe siècle, et qui mentionne ces versets. Et certainement, il y avait une version où c'était vraisemblablement ajouté. Et troisièmement, c'est parce que les quelques manuscrits qui ont ces versets les présentent parfois à des endroits différents et parfois avec des versions différentes. Ils ont des versions différentes de ce passage. Et donc face à ces versets, ne soyons pas troublés parce que les enseignements qu'on y apprend dans ce passage, on les retrouve ailleurs dans la Bible. Et aussi, même si on peut apprendre de ce que ces versets enseignent, on ne va pas les considérer, et ceci par souci de fidélité à la parole de Dieu. Okay? Si vous avez des questions ce concernant, n'hésitez pas à me poser des questions à Trevor, n'hésitez pas. Mais on va lire notre passage en Jean 8, versets 12 à 30. Jésus leur parla de nouveau. Il dit: je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. Là-dessus, les pharisiens lui dirent: tu te rends témoignage à toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. Jésus leur répondit: même si je me rends témoignage à moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et je sais où je vais. Quant à vous, vous ne savez pas d'où je viens ni où je vais. Vous vous jugez de façon humaine. Moi, je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai. Car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux personnes est vrai. Or, je me rends témoignage à moi-même et le Père qui m'a envoyé me rend aussi témoignage. » Ils lui dirent donc, « Où est ton Père ?» Jésus répondit, « Vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Jésus dit ces paroles alors qu'il a enseigné dans le temple, à l'endroit où était le trésor. Et personne ne l'arrêta parce que son heure n'était pas encore venue. Jésus leur dit encore, « Je m'en vais et vous me chercherez, mais vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez pas venir là où je vais. » Là-dessus, les Juifs dirent, « Va-t-il se tuer ?» puisqu'il dit, « Vous ne pouvez pas venir où je vais. » Il leur dit, « Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi, je suis, vous mourrez dans vos péchés. « Toi, qui es-tu ?» lui dirent-ils. Jésus leur répondit, « Ce que je vous dis depuis le début, j'ai beaucoup de choses à dire et à juger à votre sujet. Mais celui qui m'a envoyé est vrai, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. » Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Jésus leur dit donc, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous reconnaîtrez que moi, je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je dis ce que mon Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Comme Jésus disait cela, beaucoup crurent en lui. Alors Jésus fait une grosse déclaration ici, n'est-ce pas ? En gros, il dit qu'il est la lumière du monde qui donne la vie. Alors je ne sais pas vous, mais quand quelqu'un fait de grosses déclarations comme ça, ce qui me préoccupe, c'est la vérité. Pourquoi ? Ben, tout d'abord, parce que si quelqu'un dit quelque chose de grand et d'important, je veux savoir si je devrais l'écouter. Et puis aussi, parce que s'il se trouve que ce que cette personne dit est vrai, alors cela va très certainement me concerner. Alors ici, ce que Jésus dit au verset 12 et dans la suite du passage, c'est du gros, parce qu'en gros, il dit qu'il est Dieu lui-même. Et il dit aussi que celui qui le suit, il ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la vie éternelle. Et il dit aussi que son témoignage est vrai, qu'il est digne de confiance, parce que ce témoignage est vrai. Et cela devrait nous pousser à l'écouter. Alors ce n'est pas comme Ryo Okawa, un faux messie japonais, que se dit être la réincarnation du Dieu de l'Ancien Testament, soi-disant, et je paraphrase un peu, venu pour éclairer les hommes, dont le témoignage, lui, se prouve, se voit clairement qu'il est faux, qu'il n'est pas vrai. Non. Comme nous allons le voir dans un premier temps, le témoignage de Jésus est vrai et digne de confiance. En verset 12, Jésus dit donc qu'il est Dieu et que celui qui le suit marche dans la lumière et il aura la vie éternelle. Alors en fait, la lumière, c'est un thème important dans l'évangile de Jean. En effet, au début de cet évangile, dans l'introduction, et aussi à d'autres endroits, il nous est dit que Jésus, c'est Dieu qui est la lumière des hommes, qui est venu dans le monde pour les éclairer, eux qui sont dans les ténèbres. L'introduction de l'évangile nous dit aussi qu'en tant que fils de Dieu, Dieu fait homme, Jésus est la lumière qui est venue révéler le Père, révéler Dieu le Père, et donner le droit de devenir enfant de Dieu, c'est-à-dire donner la vie, et ceci à tous ceux qui le reçoivent et croient en lui. Mais ce thème n'est pas seulement important dans l'évangile de Jean. En fait, c'est un thème très important dans tout l'Ancien Testament. Alors, si on se rappelle du contexte, Jésus est en train de déclarer ceci, qu'il est la lumière, durant la fête des tentes, fête instaurée durant l'Ancien Testament. Alors, lors de cette fête, les Juifs étaient appelés à se rappeler que Jésus les avait dirigés, Puis il les avait dirigés, lui qui avait marché dans une colonne de feu. Il les avait dirigés par sa lumière, lui qui était la lumière. Lui qui les délivrait de l'Égypte et qui les amenait à la terre promise, là où il y avait la vie en abondance. Et durant cette fête, il devait aussi se rappeler des promesses de Dieu dans Zacharie notamment, qui parlait d'une Jérusalem parfaite et céleste, où il y allait avoir de l'eau en abondance, comme on a vu la semaine passée, mais aussi la lumière parfaite, constante, la lumière de Dieu lui-même. Du coup, ce que Jésus dit, c'est du gros. Il dit qu'il est Dieu, qu'il est la lumière du monde. Et que quiconque le suit, celui-là ne marche pas dans les ténèbres, mais il marche dans la vérité. Et il aura la lumière de la vie en abondance, la vie éternelle. Alors, quand ils entendent ça, les pharisiens, ils ont du mal à croire ce qu'il dit. Et en gros, ils lui répondent que c'est lui qui dit ça, c'est lui qui dit ça de lui-même, que son témoignage est faux. À première vue, ils sont un peu comme ceux qui ne croient pas les grosses déclarations de Ryo Okawa, parce qu'ils ne croient pas son témoignage. Mais Jésus leur dit que c'est eux qui ont tout faux, parce que son témoignage est vrai. Au verset 14 à 19, il leur donne plusieurs raisons pour lesquelles son témoignage est vrai. Tout d'abord, il leur dit que même s'il se rend témoignage à lui-même, son témoignage est vrai, parce que lui, il sait d'où il vient, de Dieu. Il sait où il va, vers Dieu. Alors que eux, ils ne savent pas ces choses. En effet, ils ne cessent de mal juger d'où il vient et où il va. Ils jugent selon la chair, c'est-à-dire selon l'apparence, selon ce que les yeux voient. Comme on l'a vu la semaine passée, ils croyaient savoir d'où Jésus venait. De la Galilée, mais ils ne jugeaient que de manière terrestre. Ils ne reconnaissaient pas que Jésus venait de Dieu lui-même, et ils ne reconnaissaient pas que cela se voyait à ses enseignements et aussi à ses actes. Jésus, lui, il savait d'où il venait et où il allait. Il ne jugeait pas comme eux, selon la chair, selon l'apparence, selon la vue. Mais en même temps, il dit que s'il les jugeait, alors son jugement serait juste, parce qu'il n'était pas seul. Mais son Père, Dieu le Père, était avec lui. Alors c'est ce qui le mène à son deuxième argument. Son témoignage est vrai, parce qu'il n'est pas seul à se rendre témoignage à lui-même. Ainsi, même les conditions de leur loi, de la loi de l'Ancien Testament, sont remplies. La loi demandait qu'il y ait deux témoins pour que le témoignage soit reconnu comme étant vrai. D'une part, il dit que lui-même se rend témoignage à lui-même par ses enseignements et par ses actes, et qui était clairement divin, mais que les pharisiens ne reconnaissaient pas comme étant comme venant de Dieu, comme étant divin. Et d'autre part, Dieu le Père lui-même rendait témoignage aussi à Jésus, au travers des œuvres qu'il a données à Jésus de faire. Et c'est ce qu'on lit au chapitre 5, versets 36 à 37. Vous n'avez pas besoin d'y tourner, je vais les lire, si vous voulez. C'est ce que Jésus dit quand il dit « Pour ma part, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Ces œuvres mêmes que je fais témoignent à mon sujet que c'est le Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage à mon sujet. » En gros, c'est un peu comme la lumière. Si on peut éteindre la lumière, là, s'il te plaît. C'est un peu comme la lumière. Je ne sais pas si vous voyez la lumière. Non. C'est un peu comme la lumière de cette lampe de poche. Alors, comme la lumière de cette lampe rend témoignage à la présence même de cette lumière, c'est clair, il n'y a pas photo. En gros, la lumière qui est dégagée rend témoignage au fait qu'il y a la lumière, n'est-ce pas? Alors, de la même manière, Jésus témoigne de qui il est, parce qu'il dit et parce qu'il fait. En gros, qui il est, ce qu'il fait et ce qu'il dit, témoigne tout simplement qu'il est de Dieu, que son témoignage est vrai. Et comme la source de la lumière est un avec la lumière, et qu'elle témoigne naturellement de cette lumière, alors le Père est lui-même aussi, il est un avec Jésus, et il rend témoignage de Jésus. Parce que Jésus donne les enseignements qui viennent de lui, et parce qu'il fait la volonté du Père, en se soumettant parfaitement à lui, au point d'aller à la croix. Donc on peut rallumer les lumières, merci. Et c'est ce qu'on lit au verset 25 et 26. « Toi qui es-tu, lui dirent-ils, Jésus leur répondit, ce que je vous dis depuis le début. J'ai beaucoup de choses à dire et à juger à votre sujet. Mais celui qui m'a envoyé est vrai, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. » Et fin du verset 28 et 29. « Je ne fais rien de moi-même, mais je dis ce que mon Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Alors en entendant cela, les pharisiens continuent à douter du témoignage de Jésus et ils demandent où est son Père. Alors dans sa réponse, Jésus leur montre pourquoi ils ont tout faux et pourquoi ils ne saisissent pas que son témoignage est vrai. Non seulement ils ne savent pas qui Jésus est, parce qu'ils jugent mal, parce qu'ils jugent selon la chair, mais ils ne reconnaissent pas que son témoignage est vrai, parce qu'ils ne connaissent pas Dieu lui-même. En effet, s'ils reconnaissaient Jésus, alors ils connaîtraient Dieu. En fait, dans l'évangile de Jean, on voit que la connaissance de Jésus et celle du Père sont étroitement liées. Ainsi, celui qui connaît Dieu aime Jésus et reconnaît que Jésus est de Dieu. Et aussi celui qui veut faire la volonté du Père reconnaît que les enseignements de Jésus viennent de Dieu. Et en même temps, celui qui reconnaît qui Jésus est, eh bien celui-là connaît Dieu lui-même. Parce que c'est Jésus qui révèle qui est Dieu. Et ceci est le cas parce que Jésus, Dieu le Fils et Dieu le Père, sont un. Alors en entendant ce débat entre Jésus et les pharisiens par rapport à son propre témoignage, je me demande ce que vous pensez du témoignage de Jésus, de son témoignage qui dit être vrai. Est-ce que vous êtes convaincu de qui il est, qu'il est Dieu, la lumière du monde qui éclaire ceux qui le suivent et qui leur donne la vie? Peut-être que vous êtes un peu sceptique ou vous n'êtes pas trop sûr de qui il est. Et si c'est votre cas, vraiment, sachez qu'on est très heureux de vous avoir parmi nous. Et on espère que vous pourrez avoir une meilleure idée de qui Jésus est et de ce qu'est la foi chrétienne parmi nous. Je vous encourage vraiment à continuer à rechercher, à connaître la vérité le concernant. En effet, soit Jésus est Dieu, soit il ne l'est pas. Soit son témoignage est vrai, soit il ne l'est pas. Aussi, méfions-nous de ce que notre culture essaie de nous faire croire. Que quel que soit le témoignage de la personne, de la religion ou de l'idéologie que l'on suit, qu'il soit vrai ou non, tant que ça nous plaît, c'est bon. La culture nous dit que chacun sa vérité, celle qui lui plaît. Mais non, la vérité est importante. Et sachant que la vérité n'est pas une question de goût. Non, la vérité est objective. Et ne soyons pas aussi désintéressés par la vérité, comme si elle n'avait pas d'impact dans nos vies. Parce que selon Jésus, la vérité le concernant a un impact dans nos vies profond. Et quel que soit ce qu'on croit, en fait, a un impact dans nos vies. On vit de manière conséquente selon nos croyances. Alors, j'ai récemment lu dans un article que pour beaucoup de personnes, que pour beaucoup de nos contemporains, la vérité n'est plus tellement importante. Et même concernant les faits d'actualité, en fait. En fait, ce qui leur importe, c'est plutôt ce qui divertit, ce qui les divertit. Je crois que Blaise Pascal avait beaucoup de sagesse, il avait bien vu quand il a dit, en gros, je paraphrase un peu, qu'on charge l'homme de divertissement. Et quand il parle de divertissement, il ne parle pas seulement de l'amusement, mais il parle aussi de l'occupation, de manière générale, comme le travail et d'autres choses. Il dit qu'on charge l'homme de divertissement dès son jeune âge, et on lui dit que sans divertissement, sans occupation, le bonheur lui manque. Mais à cause de ces divertissements, il est tellement diverti, il est tellement occupé, qu'il passe à côté de la vérité. Et j'aimerais dire que cela est grave, et cela est très souvent vrai et grave. La vérité, c'est ça qui est important. Et ce qui est important, c'est d'être dans la vérité, n'est-ce pas? Alors, je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas s'amuser. J'aime bien m'amuser. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas être occupé. Je suis très souvent occupé. Mais je ne suis pas non plus en train de dire qu'on ne peut pas croire ce qu'on veut. En tant que croyant, on veut et on doit respecter la foi de chacun. Mais en même temps, on devrait avertir notre entourage de l'incohérence de ce qu'il croit parfois. En effet, toutes les croyances ne peuvent être vraies en même temps. Et quelle que soit sa croyance, elle aura toujours des grandes conséquences dans nos vies. Alors par exemple, soit Jésus est Dieu et il donne la vie, soit il n'est pas Dieu, il ne donne pas la vie. Par contre, si son témoignage est vrai, et Jésus nous dit que son témoignage est vrai, alors c'est ô combien important de le suivre et de croire en lui. Ceci pour les raisons qu'on va voir dans quelques instants. Alors si nous sommes croyants, ce matin, ces versets sont très réconfortants, n'est-ce pas? Ils nous rassurent que la foi chrétienne, c'est la vérité. Pourquoi? Parce que le témoignage de Jésus est vrai. Et on ne peut pas être fier. On ne peut pas être fier de connaître la vérité parce que cela ne vient pas de notre intelligence ou de notre sagesse. On doit être reconnaissant et humble parce que cela vient de Dieu. C'est Dieu qui nous a donné de venir à Jésus, qui nous a convaincus que son témoignage est vrai. En lisant les témoignages fidèles concernant la vie de Jésus et les enseignements de Jésus dans les évangiles, et en lisant les prophéties dans l'Ancien Testament le concernant, Dieu nous montre que le témoignage de Jésus est vrai. Ainsi, grâce à Dieu et par sa parole, on peut avoir la certitude que Jésus est Dieu et que Jésus est venu donner la vie, lui, la lumière du monde. Alors, s'il nous arrive de douter et quand il nous arrive de douter, lisons d'autant plus la parole pour nous rappeler de la vérité. Si par contre, vous n'êtes pas croyant pour l'instant, je vous encourage vraiment à prendre Jésus à ses mots et à lire et sonder la Bible humblement pour découvrir vous-même son témoignage. Cela est important parce que, comme on le voit au verset 12 et dans les versets 13, versets 21 à 30, Jésus, c'est Dieu qui donne la vie à la croix. Et il nous faut croire en lui pour avoir cette vie. Alors, on a déjà vu au verset 12 que Jésus dit qu'il est la lumière, qu'il est Dieu, la lumière du monde, celui qui est venu pour donner la vie. Au verset 21 jusqu'au verset 30, Jésus redit la même chose. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Il redit la même chose, mais de manière différente. En gros, il dit aux pharisiens, il dit aux pharisiens qu'ils mourront dans leur péché. Ils mourront dans leur péché s'ils ne croient pas qu'il est Dieu, qu'il est Dieu qui est venu sauver des hommes pécheurs en étant élevé à la croix. Alors on va survoler rapidement ces versets pour voir cela. En gros, verset 21, Jésus leur dit qu'il s'en va et que là où il va, ils ne peuvent aller. Pourquoi ? Parce qu'ils mourront dans leur péché. Alors, comme dans le passage de la semaine passée, ces pharisiens se posent des questions. Et cette fois-ci, ils se demandent s'ils disent ça parce qu'il va se suicider. À nouveau, ils ne comprennent pas. Alors, Jésus, ce qu'il fait, c'est qu'il réexplique. Il leur réexplique ce qu'il a déjà expliqué. Il leur réexplique qu'ils ne peuvent aller où il va parce que l'accès à Dieu leur est barré. Et ceci, c'est à cause de leur péché. En effet, eux, ils sont d'en bas. Ils sont du monde pécheur qui ne croit pas Dieu, qui se rebelle contre Dieu, qui veut être indépendant de Dieu. Jésus, par contre, est en haut. Il n'est pas de ce monde pécheur. Il est de Dieu. Il est Dieu. Il est la lumière. Il est parfait. Et du coup, lui, il a accès à Dieu, le Père. Mais pas eux. La route leur est barrée. Ils mourront dans leur péché. Ils mourront à cause de leur rébellion. C'est fort, n'est-ce pas? C'est fort, c'est humiliant. Le fait de ne pas croire le témoignage de Jésus, de ne pas croire en Jésus, se confier en lui, a de sérieuses conséquences. Et Jésus veut vraiment être clair là-dessus. C'est pour ça qu'il martèle cette réalité. Il dit la même chose trois fois. Une fois au verset 21 et deux fois au verset 24. En gros, à cause de notre rébellion, de notre volonté d'être indépendant de Dieu, on mérite la mort. Et quand Jésus parle de la mort, il parle d'une vie loin de Dieu. Une vie éternelle loin de Dieu. Sous la colère, sous sa juste colère à cause de notre grande rébellion. Cela est sérieux. C'était un grand avertissement pour ses propres contemporains. Et Jésus nous avertit, nous aussi, aujourd'hui. Alors, cet avertissement est tout à fait l'opposé de ce qu'on veut nous faire croire dans notre culture, n'est-ce pas ? En effet, on entend souvent dire que toutes les religions se valent et toutes les religions mènent à Dieu, ou que Dieu nous pardonnera parce que Dieu n'est que amour, ou c'est son travail, c'est juste son boulot de nous laisser passer, de nous pardonner. À ce que je sache, toutes les autres croyances, à part la foi chrétienne, elles disent qu'on peut arriver à Dieu d'une manière ou d'une autre, de par nos propres efforts. Il nous faut faire pencher plus la balance, plus du côté des bonnes œuvres, selon l'islam. Ou qu'il nous faut aller à la confesse, être baptisé, prendre l'Eucharistie et faire du bien autour de nous, selon l'enseignement officiel du catholicisme. Mais cela n'est pas possible. Jésus martèle là-dessus. Nous ne pouvons rien faire pour accéder à Dieu de nous-mêmes. Il est clair, il veut qu'on arrive au bout de nous-mêmes, comme dans le passage de la semaine passée. Il veut qu'on fasse preuve de vraie humilité en reconnaissant qu'on ne peut arriver à Dieu de nous-mêmes et que ce qu'on mérite, nous, c'est la mort à cause de notre rébellion. Mais ce n'est pas tout. Il y a de l'espoir, il y a une très bonne nouvelle dans ce passage, n'est-ce pas ? Il y a la bonne nouvelle de l'accès à Dieu grâce à Jésus. Au verset 24 et 28, Jésus dit que si on croit en lui, si on croit qu'il est Dieu qui vient donner la vie à la croix, on échappera à cette mort. Alors on voit que ces versets que Jésus dit, on voit dans ces versets que Jésus dit qu'il est Dieu et qu'il nous faut croire qu'il est Dieu pour être sauvé. Alors ça peut paraître un peu surprenant à premier égard. En fait, le nom « je suis », je ne sais pas si vous avez remarqué là, verset 24, « si vous ne croyez pas que moi, je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Cette expression « je suis », ce titre, ce nom « je suis » était le nom par lequel Dieu s'est révélé à Moïse dans l'Ancien Testament. Et c'est aussi une expression que Dieu utilise pour parler lui-même dans le livre d'Ésaïe. Et du coup, Jésus est en train de dire ici que si on croit qu'il est Dieu, alors on sera sauvé de la mort. Alors en entendant cela, les pharisiens s'étonnent et lui demandent qui il est, lui. Et Jésus leur répond qu'il est celui qui leur dit qu'il est depuis le début, qu'il est Dieu fait homme, venu pour sauver les hommes pécheurs qui se confient en lui. Et c'est d'ailleurs ce que Jean nous dit depuis le début de son évangile. Et au verset 28, il leur affirme que c'est quand il sera élevé, c'est quand il sera exalté et crucifié à la croix, qu'ils comprendront le mieux qu'il est Dieu lui-même. Ainsi, c'est quand Jésus accomplit sa mission, celle de sauver les pécheurs qui se confieraient en lui, c'est là qu'on comprend le plus, qu'on comprend le mieux qui il est, qu'il est Dieu lui-même. Et c'est certainement la raison pour laquelle le centurion a proclamé « Celui-ci est vraiment le Fils de Dieu » quand il a vu mourir à la croix. En effet, il avait sûrement la compréhension, il savait certainement que seul un juste, seul quelqu'un de parfaitement juste, seul Dieu lui-même pouvait payer pour des pécheurs qui allaient se confier en lui, en qui il est et ce qu'il faisait. Oui, il fallait que Jésus soit homme pour payer pour des hommes pécheurs. Mais en même temps, il fallait qu'il soit aussi Dieu, parce qu'il devait être parfait pour pouvoir donner sa justice parfaite à des hommes en échange de leurs péchés, et aussi pour satisfaire la justice de Dieu. Donc, Jésus, c'est Dieu. C'est Dieu qui donne la vie, qui est venu donner la vie à ceux qui se confieraient en lui, à la croix. Alors si ce matin vous n'avez pas encore mis votre confiance en Jésus, ne serait-ce pas sage de prendre au sérieux son avertissement. Il dit, si vous ne croyez pas que moi, je suis, vous mourrez dans vos péchés. Mais ne serait-ce pas aussi sage de l'écouter et de vous confier en lui, d'écouter sa douce voix, lui qui vous appelle à sa lumière, lui dont le témoignage est vrai, est digne de confiance. J'aimerais vous inviter ce matin à vous approcher de la lumière de Jésus dans l'humilité, en reconnaissant votre rébellion, vos péchés, et aussi en vous confiant pleinement en qui Jésus est et ce que lui a fait. C'est le seul moyen d'être sauvé. Si vous faites cela, vous ne serez plus dans les ténèbres, mais vous serez dans la lumière et vous aurez la lumière de la vie. Vous aurez la vie en abondance en Jésus. Alors si vous êtes quelqu'un qui suit Jésus ce matin, qui suit la lumière, alors Jésus vous rappelle, Jésus nous rappelle à l'humilité. Parce que si on devait regarder à ses propres actions, à ce qu'on fait, si Dieu devait regarder à ce qu'on fait, nous, on ne pourrait pas être fiers. Est-ce qu'on mériterait? C'est la mort. Mais en même temps, on a vraiment de quoi être réjoui et réconforté ce matin. Parce que quelles que soient les circonstances de nos vies, Jésus est la vie. Il est venu nous donner la vie. Il est la lumière. Et on est en Jésus si on se confie en lui. Et grâce à lui, on a la vie en abondance. On a un accès à Dieu parfait. On a la certitude qu'on ne mourra pas. Pas parce que nous, on est à la hauteur, mais parce que Jésus est mort à la croix pour payer pour nos péchés. Pour qu'on ne doive pas mourir et qu'on ait la vie. Et donc, on a aussi aucune crainte à avoir en pensant à ce qu'on a fait ou à ce qu'on n'a pas fait. Parce que notre accès à Dieu ne dépend pas de nous, mais de Dieu lui-même, de Jésus. Et aussi, je sais que ce n'est pas facile, mais ce que Jésus nous dit nous pousse aussi à avoir compassion de ceux qui nous entourent, n'est-ce pas? quand vous rentrez à la maison ou au bureau lundi ou dans votre voisinage, regardez les gens autour de vous qui ne croient pas en Jésus. S'ils ne se confient pas en lui, en qui il est, ce qu'il a fait, ils mourront dans leur péché. Ils ont besoin d'entendre la bonne nouvelle de Jésus, de qui il est. Est-ce qu'il est venu faire pour sauver des hommes pécheurs et des femmes pécheurs qui se confieraient en lui? Ayons compassion d'eux. Soyons pleins d'amour comme Jésus était plein d'amour et partageons cette merveilleuse nouvelle. Alors je vous invite à la prière pour terminer. Merci Seigneur, notre Dieu, parce que on peut se confier dans le témoignage de Jésus, parce que son témoignage est vrai. Merci de nous montrer cela dans ce passage. Je te prie que tu nous en convainques de nouveau et durant les jours à venir, et alors qu'on réfléchit à ce passage, alors qu'on pense à ce passage, alors qu'on pense aux actions et aux enseignements de Jésus, convainque-nous à nouveau de cette réalité. Et merci aussi d'avoir envoyé la lumière dans le monde, ton Fils Jésus, pour que si on croit en lui, on ne meure pas, et qu'on ait la vie pour toujours, en abondance. Merci.